Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une interview et particulièrement cet échange que j'ai vu avec Laurie de Basic Coaching. C'est vrai que quand je cherche des personnes à interviewer, je vais toujours essayer de trouver des personnes qui ont fait des choses incroyables, mais pour autant des personnes en lesquelles on peut se reconnaître, parce que pour moi c'est important de se dire si elle l'a fait ou si il l'a fait, et bien moi aussi je peux le faire. Laurie est la fondatrice de Basic Coaching. Elle travaille avec son mari et elle a également une équipe qui l'aide au quotidien à gérer son entreprise en pleine évolution. Son domaine, c'est le business, mais avec une pointe de human design. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez, on en parle dans l'épisode. Et elle met vraiment en avant, si vous voulez, le facteur soi, parce que c'est bien de vouloir changer sa vie, reprendre les choses en main, mais se connaître pour le faire de la bonne manière, c'est encore mieux. Dans cet épisode, vous allez d'abord découvrir qui est Laurie, avant toute chose, qui est une maman de 3 enfants qui vont de 1 à 8 ans, si je ne me dis pas de bêtises, donc des enfants qui ont encore besoin d'elle. Et je suis contente qu'elle puisse représenter ça, parce que très souvent, en tout cas chez la femme, tu fais deux choix. Quand on regarde des films à la télé, celles qui ont des carrières exceptionnelles n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas eu le temps pour ça. Donc on nous montre une image de la réussite en business, le fait d'avoir une carrière qui fonctionne, qui n'est pas compatible avec la maternité et la vie de famille, et bien Laurie, elle vient péter tout ça. Et elle vient vous montrer que si, c'est possible. Vous pouvez tout à fait construire la vie que vous voulez en fonction des règles que vous voulez, et être maman ne vous empêchera absolument pas de réussir et de créer un empire, de laisser un héritage et de faire plein de choses incroyable. On va parler également de human design, on va parler des entreprises qu'elle a pu lancer avant Basic qui n'ont pas fonctionné. Et pourquoi ? On va parler d'argent et de ce qui, selon elle, a été déterminant pour arriver dans un premier temps à ses 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et ensuite taper le plafond et continuer à augmenter, aller à 20, 30, 40 et actuellement 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors installez-vous confortablement, je vous laisse avec la suite, préparez-vous à absorber un max de bonnes ondes, de petites introspections, réflexions et de motivation. Salut Laurie, bienvenue dans Build Yourself.
Bonjour Safia, merci beaucoup.
Mais je suis contente de t'accueillir parce que alors ça fait un petit moment que je te suis et en fait
J'aime bien l'énergie que tu dégages. C'est bizarre de te dire ça, mais j'ai l'impression que t'es une personne hyper douce, hyper, tu vois, bienveillante. C'est ce que je ressens en tout cas quand je te regarde et quand je consomme ton contenu. Donc je suis contente de pouvoir échanger un peu avec toi aujourd'hui.
Bah écoute, moi je suis très très contente d'être invitée sur ton podcast. T'es quand même une des belles références dans ce domaine-là. Donc je suis très touchée d'être avec toi et de partager ce moment-là aujourd'hui.
Bah, est-ce que tu peux me dire avec tes mots ce que tu fais aujourd'hui ? Quel est ton job ?
Oui, bien sûr. Donc moi, j'accompagne des femmes uniquement parce que c'est mon petit combat perso. J'accompagne des femmes qui ont une vie qui leur convient pas tout à fait, soit parce qu'elles sont carrément pas épanouies et elles ont fait un burn-out ou alors elles en sont pas loin, soit parce qu'elles ont pas trouvé leur voie au niveau pro et qu'elles ont envie de changement, elles ont envie de plus, elles ont pas envie de vivre à moitié comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Et donc pour moi, ça passe notamment par l'entrepreneuriat et du coup, j'ai créé des programmes pour les accompagner dans cette grande aventure et qu'elles puissent se sentir confiantes dans leur projet, qu'elles reprennent confiance en elles aussi et qu'elles deviennent plus libres finalement avec une puissance qui est à l'intérieur d'elles avec laquelle elles auraient reconnecté où elles sentent qu'elles peuvent tout faire et que tout est possible.
Et du coup, j'ai envie de te demander... Est-ce que tu avais un métier de rêve ou un métier idéal quand tu étais plus jeune, genre étudiante ou lycéenne ou collégienne ? Genre, qu'est-ce que tu devais faire ?
Moi, je voulais être prof de français.
D'accord.
donc, il n'y a pas grand-chose à voir en théorie. Déjà, plus petite, en fait, je voulais être maîtresse, comme un milliard de petites filles.
Ouais.
Mais c'est quelque chose qui ne m'a pas trop quittée, finalement, même si ça s'est précisé après avec le temps. J'ai même fait les études pour, et en fait, une fois que j'étais devant le fait accompli avec ma licence et la suite qui s'offrait devant moi, c'est-à-dire être prof de français, commencer à aller faire des stages sans trop choisir l'endroit où on allait être envoyé, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou pas ? Et en fait, la réponse, c'était non, puisque c'était plutôt... le métier qui faisait bien et le fait de faire des études pour faire plaisir aussi à ma mère. J'étais la seule de ces trois enfants à faire des études et du coup, voilà, je m'étais mise un peu cette pression-là toute seule d'aller le plus loin possible pour qu'elle soit fière de moi. Mais sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, peut-être que c'est pas du tout ça en vrai que t'as envie de faire. Tu t'es collé cette envie-là il y a plusieurs années, mais on va quand même rechecker histoire de voir si c'est toujours... aligné avec toi maintenant, et c'était pas le cas. Du coup, j'ai décidé de quitter la fac juste au moment de passer ma licence. Donc, je l'ai même pas validée. En fait, je suis partie 2 mois avant. Elle était toute validée déjà. J'avais mes 5 semestres qui étaient bons, mais je me suis dit, ça sert à rien de perdre plus de temps ici, alors que je sais que de toute façon, j'en ferai rien. Et ça, c'est un choix qui n'a pas été forcément très bien compris, tu t'en doutes.
J'imagine très très bien. Ça me parle beaucoup, pas pression, mais le fait de se dire « je suis la seule qui va faire des grandes études, donc il faut que j'aille au bout, il faut que mes parents soient fiers, etc. » J'ai eu exactement le même schéma, donc pour le coup, ça me parle énormément. Alors, tu es entrepreneur depuis 8 ans, si j'ai bien fait mon travail, et Basic, ça n'est pas du tout ta première entreprise. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu faisais un peu avant, on va dire des quelques autres business que tu as lancés et que tu n'as pas forcément poursuivi pour diverses raisons.
Oui, bien sûr. Donc, en effet, tu as bien fait ton job. Ça fait 8 ans que j'entreprends. J'ai commencé quand j'étais enceinte de ma première fille parce que je me suis dit, mais en fait, je vais avoir un enfant, mais je n'ai pas envie de ne pas le voir, cet enfant. Je n'ai pas envie de me lever le matin et de le mettre vite, vite à la crèche ou chez la nounou et de rentrer le soir et d'en profiter 1 heure et de recommencer le lendemain comme ça toute ma vie. Et du coup, quand j'ai cherché les offres d'emploi à ce moment-là, je suis tombée sur une offre de négociatrice en immobilier. Et c'était un poste où il fallait être... micro-entrepreneur, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'était risqué, mais en même temps, j'avais pas grand-chose à perdre, j'avais 20 ans, moi, ça, j'avais toute l'envie du monde, enfin, tu vois, il n'y a rien qui est impossible quant à ça.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, allez, on y va, on teste. Et franchement, j'ai adoré faire ce travail-là. Par contre, j'ai moins aimé le cadre qui était imposé, où finalement on était entrepreneurs, mais c'était un peu des salariés déguisés. On n'était pas libre du tout de s'organiser comme on voulait. Enfin voilà, donc ça me, le cadre me convenait pas, mais le travail en lui-même, oui. Au final, je travaillais quand même énormément. Je faisais des semaines à 70-80 heures, donc c'était juste fou. Sachant que j'étais enceinte, du coup, à cette période-là. Et que je gagnais pas grand-chose, parce que ce cadre étant quand même très rigide, en fait, on pouvait pas tellement y aller au feeling avec les clients. Fallait les faire rentrer dans, dans les cases. Et moi, c'est jamais un truc qui a fonctionné avec moi. J'aimais bien apprendre à connaître mes clients pour les faire matcher avec le bon appartement ou la bonne maison. Et du coup, j'aimais les suivre dans la durée comme ça. Et finalement, les seuls appartements que j'ai vendus, c'était en faisant cette méthode qui n'était pas approuvée par le patron. Alors que lui, bah voilà, selon lui, il fallait présenter un bien à un client potentiel. Et s'il n'achetait pas, next, on passait au suivant. Mmh. Et donc, du coup, voilà, il n'y avait pas beaucoup de résultats pour beaucoup de travail. Donc, j'ai décidé de... d'arrêter juste quelques mois avant d'accoucher. Et ensuite, j'ai profité de ma fille ces 5 premiers mois. Et après, j'ai fait un petit crochet par la case salarié parce que mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, mais il était carrément flippé de mon statut électron libre.
Ouais.
et il ne me soutenait pas tout à fait dans cette envie-là. Pour lui, ce n'était pas le bagne que d'avoir un CDI. Donc voilà, c'était un peu le Graal. Il était très enfermé encore dans ce schéma-là. Et j'avoue que venant d'avoir un bébé, je me suis pris quand même le poids des responsabilités d'un coup. Et j'ai dit, bon, bah ok, on va tester. Et j'ai pris un boulot salarié que j'ai plutôt bien aimé au début, mais après, c'était trop lourd quoi pour moi. Exactement pour la raison que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais l'impression absolument de ne pas profiter de ma vie ni de ma fille. Et pour moi, c'était la prison. Enfin voilà, j'avais plus de liberté. Et donc après ça, j'ai lancé ma première société, moyennement encouragée par mon mari, qui était toujours très très flippé, mais là, enfin, pour le coup, j'avais fait le test, tu vois, d'aller dans le salariat. Mm-hmm. J'avais vu ce que ça avait fait, il avait vu ce que ça avait fait, donc il était un tout petit peu plus ouvert à autre chose. Donc cette société, c'était dans l'événementiel. J'avais eu l'idée de créer des événements pour les mamans, pour qu'elles puissent venir se faire chouchouter avec des massages, des manucures, de la coiffure et tout ça dans des super jolis lieux.
Ouais.
Avec un coin garderie pour qu'elles puissent venir, même si elles n'avaient pas de mode de garde pour leurs enfants. Et du coup, ça a plutôt bien marché assez rapidement, sauf que j'avais pas du tout bien calculé mes prix. Et qu'en fait, les événements me coûtaient plus cher à organiser que ce que ça me rapportait, même quand ils étaient pleins.
Ouais.
Donc forcément, ça coince à un moment donné. Et j'avais beaucoup de blocages et de freins psychologiques à me dire « je peux pas mettre plus cher, impossible, les gens n'achèteront pas si je mets plus cher ». Donc en fait, je suis allée au bout comme ça du projet et à un moment, j'ai vu que ok, ça marche bien, ok, tes événements sont remplis, mais en fait, non seulement tu tires rien pour ta rémunération, mais en plus de ça, tu perds de l'argent parce que tous les mois, t'en remets depuis ton petit chômage à l'intérieur de cette société. Donc, ça ne va pas être viable sur le long terme. Mmh. Donc, je l'ai arrêté. Et après, j'ai une petite phase. Ok, allez, pourquoi pas retourner dans le salariat. Finalement, ce n'est pas si terrible que ça. J'ai cherché des postes et j'en ai trouvé un pour lequel j'ai passé... plusieurs étapes de recrutement, 5 en fait au total, donc c'était quand même plutôt long. Pour un poste, franchement, payé à peine plus que le SMIC hein, en plus. Enfin bon, c'était pas le poste de rêve, mais le process de recrutement, t'avais l'impression d'être l'élu qui était choisi à la fin. Donc je suis allée au bout de ce process-là, on n'était plus que 2 à la fin, et ils nous avaient demandé d'envoyer un dossier, tu sais, le dossier gratuit pour avoir plein d'idées de comment est-ce qu'on pourrait optimiser notre communication sur telle chose. Et à la fin du process, en fait, ils m'ont rappelé pour me dire, on a préféré votre dossier, on a préféré votre profil. Seul problème, c'est que vous avez 10 ans de moins que la plupart de nos salariés. Et en fait, on se sent pas à l'aise de vous payer autant qu'eux. Donc, on va prendre l'autre candidat.
Ah c'est super.
Donc, c'est génial. C'était génial. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pas tout compris. J'ai pas bien compris ce qui vient de se passer, mais bon, d'accord, c'est que ça devait pas être fait pour moi. Et après, j'ai eu un petit pépin de santé exactement à ce moment-là. Et le jour de Noël, la femme qui m'avait fait passer les recrutements m'a appelée pour me dire « on a quand même vachement aimé votre profil et on aurait besoin de renfort. Est-ce que vous aimeriez bien faire des missions pour nous en tant que freelance ?» Ah, je me suis dit « bah tiens, j'avais jamais pensé à faire ça en tant que freelance, mais bon, pourquoi pas ?» Je prenais pas beaucoup de risques pour le coup, puisque j'avais rien d'autre de prévu et qu'il fallait que je trouve quelque chose. Donc bah, j'ai dit « ok, allons-y », j'ai réouvert ma micro-entreprise avec un premier client déjà,
ouais.
Donc c'était plutôt cool. Et quand j'ai ouvert ma micro, j'ai mon ancien patron salarié qui m'a demandé aussi de faire des prestats pour eux comme ça. Et puis après, en fait, c'est le bouche à oreille qui a fait son travail, c'est-à-dire que j'ai été recommandée par plusieurs personnes, par des copines. Et du coup, j'ai trouvé mes clients de cette façon-là sans avoir à les démarcher. Et donc là, je travaillais essentiellement sur leurs réseaux sociaux et la création de sites internet que j'ai appris à faire seule. Et donc ça a duré un peu plus de 3 ans et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Ça me plaisait beaucoup, même si j'avais pas forcément décidé... j'avais pas un objectif en tête quand je me suis lancée, c'était plus je me laisse porter et ah tiens, il y a des clients, c'est cool, ça fait plus de chiffres. Ah tiens, il y a moins de clients, mais c'est pas grave parce que j'avais pas de cap quoi. Je me laissais vraiment porter en fait avec le recul. C'était très très libre. Et donc ça m'a bien occupée, ça m'a bien plu jusqu'au moment où quand même ça manquait de nouveautés. Et donc là, on est, pour te situer un peu dans le temps, on est en 2019, on est début 2019.
OK.
Ça manquait de nouveautés pour moi qui ai besoin de pas mal de surprises et d'émerveillements dans ma vie. J'avais l'impression de faire toujours la même chose et ça m'ennuyait en fait. Je prenais plus autant de plaisir qu'au début. Et même quand j'avais un nouveau client, je me disais oh non, j'espère que ça va pas passer le devis parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Donc je me suis dit ok, il y a peut-être un truc à modifier là. Et on a eu envie avec mon mari à ce moment-là de changer de cadre, d'acheter une maison. Et en même temps qu'on partait, puisqu'on a changé de région, donc lui a laissé son CDI.
Okay.
Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas lancer quelque chose ensemble ? Parce qu'entre-temps, quand même, la graine avait germé dans sa tête et il s'était dit, tiens, c'est peut-être pas si mal finalement l'entrepreneuriat. Et donc on a essayé de lancer quelque chose ensemble en 2019. C'était un projet de marque de vêtements pour hommes grands, parce que lui, il fait près de 2 mètres et que c'est très dur pour s'habiller avec des vêtements qui ont du style, quoi, qui sont pas des vieux costumes. Du coup, on a lancé ça, sauf que c'était très, très ambitieux dès le départ et qu'on avait mal calculé le besoin de financement au démarrage pour lancer toute une production. Et du coup, on a avancé au max dans ce projet. On a mis... tout l'argent qu'on avait, même plus, parce qu'on en a récupéré qui était destiné à autre chose.
Mmh.
Et en fait, on s'est retrouvé vraiment dans une situation hyper compliquée parce qu'on avait tout mis. Et en fait, on s'est rendu compte que le projet, il pourrait pas voir le jour parce que l'investissement nécessaire, il était 3 fois supérieur à ce qu'on avait prévu.
Ouais.
Donc du coup, là, on s'est dit, ok, soit on s'entête et on continue là-dedans, soit on décide d'arrêter et on se dit tant pis, on a perdu ça, mais on sauve les meubles pour le reste. Donc ça a été dur comme décision à prendre, mais on a décidé d'arrêter. Et suite à ça, période très basse pour moi avec plus aucune idée. Et ensuite, Basique est né. Voilà pour la rétrospective des 8 dernières années.
T'as fait beaucoup de choses, hein. Énormément de choses.
Ouais.
Mais alors, ce qui est drôle, c'est que dans ton parcours, en fait... je retrouve un peu ce que tu fais aujourd'hui, puisque la partie événementielle, elle est un peu là avec les séjours holistiques que tu proposes. Donc il y a toujours ces petites choses qui t'animaient, qui sont là aujourd'hui avec Basique, qui regroupent un peu le meilleur de ce que tu as pu réaliser sur ces dernières années.
Ouais, complètement. C'est vrai que moi aussi, je me fais cette remarque-là de voir qu'en fait, j'ai récupéré ce que je voulais, ce qui me plaisait dans chacune de ces activités, parce que c'est des choses que j'aimais faire, mais juste... soit que j'avais pas le bon modèle, soit que j'avais pas pensé aux bonnes choses. Et en fait, c'est aussi de là qu'est née mon envie d'accompagner les entrepreneurs. C'est justement pour qu'ils évitent d'avoir des super idées et des super projets, mais qu'ils puissent pas les mener au bout parce qu'ils ont pas pensé à tout ce que ça implique. Donc c'est vraiment, en effet, un bon condensé de toutes mes expériences passées.
Complètement. Et alors, tu prends vachement position sur le diplôme de coach et tu as pris le parti de ne pas le passer, de ne pas avoir de certification. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton point de vue là-dessus?
Ouais, bien sûr. Alors, au début, quand j'ai lancé Basic, j'étais pas du tout à l'aise à l'idée d'utiliser le mot coach, déjà. Pendant 3-4 mois, j'ai slalomé un peu de coaching, un peu de mots accompagnement. Enfin, j'essayais de savoir comment est-ce que je pouvais définir tout ça. J'étais pas très à l'aise. Et justement, j'avais le truc qui va sûrement parler à beaucoup de monde, mais le sentiment de pas être légitime ou d'être moins légitime que quelqu'un qui aurait un diplôme. Mais pourquoi on viendrait me voir moi, etc. Et en fait, quand j'ai réfléchi vraiment à la question et que j'ai décidé de faire mon choix, au lieu de juste me laisser porter, j'ai pas de diplôme, j'ai un diplôme, je sais pas, je me suis dit, fais ton choix maintenant. Soit tu décides de le passer, soit tu décides de pas le passer, mais tu l'assumes. Enfin, il faut se positionner, sinon tu vas tout le temps subir ce truc-là. Et en fait, j'ai regardé certaines formations en me projetant, en me disant, tiens, pourquoi pas. Mais après coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de passer une certification? C'était juste pour trouver de la légitimité et avoir l'impression d'être reconnue aux yeux des autres. C'était même pas pour moi. Et je me suis dit, du coup, là, la décision, elle est pas bonne. Parce que si je le fais dans ce but-là, c'est pas le diplôme qui va m'apporter la légitimité. Je vais juste avoir mon sentiment d'illégitimité plus un diplôme. Mais ça va pas me l'enlever, ça va pas venir gommer ça. Donc je me suis dit, non, en fait, ça me parle pas, parce que je crois que au-delà de ce que je pourrais apprendre par la théorie dans un programme pour être certifié, en fait, moi, je l'ai pratiqué depuis 7 ans à l'époque. Ça faisait 7 ans que je m'étais vraiment lancée dans la vraie vie avec mes vrais sous et avec mes vraies peurs aussi. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est quand même pas vachement plus percutant que de suivre un programme pour être certifié et au final avoir des connaissances théoriques sur quelque chose que tu as déjà expérimenté? Et du coup, j'ai décidé de pas être certifiée et aujourd'hui je suis très contente de pas l'être parce que je sais que j'ai une façon d'accompagner mes clientes qui est la mienne et qui est pas calquée sur un modèle que j'aurais appris et qu'on retrouve chez d'autres. Et je préfère plutôt sélectionner des outils que j'ai envie d'ajouter dans ma boîte pour pouvoir accompagner mes clientes. Donc non, je suis pas certifiée, je ne compte pas l'être et je suis très bien comme ça.
Et du coup, l'un des outils que tu utilises, c'est le Human Design. Est-ce que tu peux juste me définir ce que c'est pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce terme-là?
Bien sûr, c'est un outil de connaissance de soi qui est hyper complet, qui reprend entre autres ce qu'on voit avec les chakras ou encore l'astrologie. En fait, c'est basé sur notre date, lieu et heure de naissance, donc comme pour faire un thème astral, comme pour connaître son signe du thème astral, etc. C'est pas un test de personnalité où on va répondre à des questions et qui peut changer au cours de notre vie. En fait, notre design, on n'en a qu'un, on est comme ça et on mourra comme ça. Et ça vient nous donner des tonnes d'indications sur notre fonctionnement. Très souvent, ça vient éclairer aussi beaucoup de choses du passé dans notre comportement ou même dans notre rapport aux autres. Et en fait, c'est souvent très difficile, je trouve, à expliquer parce que ça paraît flou quand on en parle. Mais quand on commence à le faire, en tout cas, c'est tout le temps les retours que j'ai avec mes clientes, c'est qu'une fois qu'on est tombé dans la marmite, on peut plus en sortir et on a envie de savoir encore plus, encore plus, encore plus. Ça nous donne, par exemple, des indications sur la meilleure façon pour nous de prendre des décisions. Sur notre niveau d'énergie aussi, est-ce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'énergie tout le temps ou bien c'est plutôt fluctuant et du coup je peux pas travailler autant que les autres même si je peux être aussi efficace en moins de temps. Ça nous éclaire aussi beaucoup beaucoup sur notre relation avec les autres, comment est-ce qu'on interagit avec eux, pourquoi avec certaines personnes j'ai plus de facilité à parler alors qu'avec d'autres je suis complètement muette. Enfin, Ça vient vraiment révéler plein de choses et ça apporte aussi beaucoup de tolérance, je trouve, parce qu'on comprend à quel point chacun est unique avec son propre fonctionnement. Et par exemple, dans les relations de couple, en fait, on arrête beaucoup de se disputer sur des petites choses parce qu'en fait, y a des choses qu'on peut juste pas se reprocher parce que c'est comme ça, c'est notre fonctionnement, c'est notre façon d'apprendre les choses. Il y en a pour qui ça va passer par beaucoup de théories, besoin d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances. Et il y en a pour qui les connaissances, c'est inutile et il faut tout de suite aller le tester dans le concret, par exemple. Mmh. Et du coup, bah là, c'est deux personnes qui n'ont pas le même mode d'emploi. Et si elles essayent de se convaincre mutuellement que c'est l'autre qui a raison, bah on tourne en rond parce que ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, à peu près.
Ok, c'est hyper clair et c'est vrai que bon, j'ai pas... Je suis pas hyper familière, dans le sens où je connais mon type parce que j'ai fait le test, etc. En fait, d'un point de vue extérieur, quand tu le prends juste comme ça pour la découverte et pas en mode « je vais me former là-dessus », c'est un peu overwhelming, dans le sens où j'ai fait le test, j'ai rempli ma date de naissance et tout, et là j'ai vu un truc apparaître. Il y avait beaucoup d'informations et très honnêtement, j'ai mis genre 5 bonnes minutes à voir qu'en fait c'était un humain, tu vois, qui avait une tête et tout, et j'étais en mode ah bah oui, parce qu'en fait j'étais devant mon écran comme ça en mode mais qu'est-ce que c'est que toutes ces choses et tout. Ça a l'air un peu intimidant de l'extérieur, mais effectivement, oui. En tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est quelque chose qui peut nous aider à mieux nous connaître et donc à prendre de meilleures décisions pour notre business et à faire des choses qui nous ressemblent et avec lesquelles on se sent aligné, quoi.
Ouais, exactement. Après, c'est vraiment, je trouve l'intérêt de le prendre comme un outil et pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que il y a mille façons de l'utiliser, le Human Design. Au début, donc quand j'ai commencé de me former à cet outil-là, j'ai proposé des lectures, justement, bah, pour les personnes qui découvrent ça et qui se disent, ok, mais en fait, qu'est-ce que je dois comprendre maintenant? Je suis devant ce schéma et je ne sais pas quelles informations il y a dessus. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de lectures comme ça où je décryptais la carte des personnes pour leur expliquer. Mais en fait, je trouve que ça, c'est l'étape intermédiaire finalement. Et après, on peut vraiment se saisir de l'outil et l'utiliser dans un autre but. Donc par exemple, moi, je fais le lien entre le Human Design de la personne et son entreprise. Mmh. Comment prendre les meilleures décisions pour elle, pour entreprendre, comment s'organiser au mieux, organiser son temps, ses journées, son énergie pour avoir des meilleurs résultats avec son entreprise, comment mieux manifester aussi ce qu'elle a envie d'avoir, etc. Mais j'ai des clientes qui l'utilisent, par exemple, j'ai une de mes clientes qui propose de faire le Human Design de toute une équipe d'entreprise pour améliorer le management et mieux répartir les rôles de chacun et mieux se comprendre. J'en ai une autre qui propose de décrypter les cartes des parents et des enfants pour améliorer leur relation et puis mieux comprendre le fonctionnement de son enfant pour mieux l'accompagner. J'en ai une qui propose de photographier les gens en fonction de leur design pour faire ressortir leur énergie. Enfin, c'est assez fou tout ce qu'on peut faire finalement avec cet outil-là.
Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On est, je parle pour moi. On pense souvent à soi, etc. Ce qu'on peut faire avec, mais effectivement, dans plein de domaines, au final... Ça s'adapte complètement, quoi, pour le coup.
Ouais, totalement.
Alors, t'es une personne qui est très transparente au niveau de l'argent, du chiffre d'affaires que tu gagnes, de ce que t'as prévu de faire, etc. Enfin, non, je pense que t'as pas toujours été ce genre de personne qui est à l'aise avec l'argent. Corrige-moi si je me trompe. Ouais. Voilà, il me semble avoir compris que c'était pas naturel chez toi et que c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé. Pour le coup.
Ouais, en fait, c'est pas naturel, je pense, comme pour beaucoup de gens. En fait, il y a ce côté secret à cacher, à garder. Il faut pas dire combien tu gagnes, ça regarde personne d'autre que toi. Tu vois, ce côté très tabou, en fait, qui entretient le tabou. Mais bizarrement, en fait, en décortiquant ça, parce que j'adore aller dans mon cerveau et réfléchir à plein de choses de ce genre pendant des heures. En décortiquant tout ça, je me suis rendu compte que le tabou, il était surtout quand tu commences à gagner beaucoup d'argent. Parce que, en fait, quand t'en gagnes pas beaucoup, ou bien quand t'es salarié et que t'es au SMIC, par exemple, ou à peine plus, ben, t'es un peu considéré comme une brave personne, tu vois. Mmh. Oh là là, ouais, tu gagnes pas beaucoup, et en plus, tu travailles tellement, t'es vraiment investi, c'est bien et tout. Mais alors, dès que tu commences à gagner bien ta vie, et le bien en fait il est très subjectif, hein, ça dépend de chaque personne, bah là d'un coup t'es moins à plaindre, et si tu te mets à parler d'argent, bah, c'est forcément pour te vanter. Donc je me suis dit ok, mais en fait ce truc là il marche que dans un sens, donc j'ai bien envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière là et de rendre ça moins tabou, et aussi de désacraliser les grosses sommes, parce que je me suis rendu compte que moi, je me faisais tout un monde de... Je sais pas, rien que quand il y a encore un an, je voyais des personnes qui faisaient 10 000 euros par mois, mais je me disais, mais, oh, mais t'es riche, quoi, avec 10 000 euros par mois, mais c'est fou, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en vrai, bah, quand je les ai faits, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est pas si fou que ça. Et ça, je trouve que c'est important aussi de montrer que on peut générer des grosses sommes, mais qu'en fait, bah, on reste la même personne. En fait, ça vient pas nous rendre mauvais de gagner beaucoup d'argent. Au contraire, enfin, je pense que si on est mauvais de base, oui, ça peut venir mettre ça encore plus en lumière, mais si à la base on est quelqu'un de avec des bonnes intentions, on va dire, au contraire, l'argent, mais c'est fabuleux parce que ça nous permet de faire encore plus de bonnes choses. Et en fait, ça, c'est vraiment un sujet qui m'anime parce que je me rends compte, et il y en a tout le temps quand on parle avec les gens, mais de toutes les croyances et de tous les blocages liés à l'argent, c'est énorme. Et en fait, il y a un peu cette contradiction entre les gens se plaignent pour toujours gagner plus, ils voudraient toujours plus, mais en même temps, ils assumeraient pas du tout d'avoir plus. Et du coup, bah, ils sont étonnés que leur situation évolue pas, ils sont étonnés de pas faire plus d'argent, et en même temps, bah, c'est tout à fait logique, parce que j'utilise souvent ça, mais c'est comme dans une relation amoureuse, finalement. Si je rejette l'autre en lui disant ah, « t'es nul, tu sers à rien », bon, bah, ça va pas vraiment l'attirer à moi. Et avec l'argent, c'est la même chose. Si je suis persuadée que c'est mal, c'est nul et ça va me rendre mauvaise, bon, bah, il va pas venir à moi plus facilement, quoi. Donc oui, j'aime bien parler de ça, en effet.
Et t'avais dit un truc que je trouve tellement, tellement vrai, c'était que quand on écoute un entrepreneur qui parle de son chiffre d'affaires, il va nous mentionner une somme et tout de suite, il va nous dire « c'est pas ce que j'ai sur mon compte en banque parce que je dois payer des charges et des impôts et des outils et des gens, etc. » Et tu l'avais pointé du doigt et je me suis dit « ouais, c'est vrai en fait. » Et moi, la première, hein, mon réflexe quand je dis « j'ai fait tant ce mois-ci », c'est de me dire « ne vous inquiétez pas ». Ce n'est pas ce que j'ai sur mon compte en banque. C'est juste, voilà, il y a plein de choses qui vont derrière. Et en fait, on a besoin de juste assumer l'argent qui est là et pas le voir comme quelque chose de mal, qu'on doit justifier sans arrêt, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Mais je le faisais aussi, hein. D'ailleurs, je faisais des petits bilans de chiffre d'affaires mensuel quand j'ai commencé Basic. Alors, à l'époque, ils étaient vraiment petits, ces bilans. Mais forcément, bah, en fait, je disais, voilà, j'ai fait ce chiffre d'affaires-là. Et regardez, il y a ces charges, il y a ces outils, il y a cette sous-traitance. Enfin, regardez, je suis une bonne personne. Je suis pas en train de prendre tout cet argent et de le mettre sur mon compte. Et en fait, j'observe, mais tellement, tellement ça chez les personnes qui partagent leurs revenus. Et enfin, si c'est quelque chose qu'elles ont envie de faire, et je trouve que c'est important aussi pour montrer comment ça se passe vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'un chiffre d'affaires, c'est pas une rémunération. Donc c'est important aussi, je pense, d'éduquer quand même les gens et de leur montrer bah, tout ce qu'ils voient pas derrière un prix, parce que ça évite aussi, je pense, au bout d'un moment, les réflexions du type « c'est trop cher ». Tu vois, c'est trop cher, bah ouais, mais tu sais tout ce qu'il y a derrière. Donc quand tu sais tout ce qu'il y a derrière, tu te dis « ah oui, c'est vrai qu'en fait, dans sa poche, il reste pas énormément ». Donc je pense que c'est quand même important de le faire. Mais quand on le fait dans le but de se justifier, bah en effet, ça vient surtout montrer un petit blocage par rapport à l'argent, finalement, de dire « bon, bah, j'ai fait ce chiffre d'affaires, mais je vais le justifier, je vais montrer tout ce qu'il y a derrière, je vais montrer que c'est pas tout pour moi ». Et en fait, quoi ? Parce que ça fait quoi si c'est tout pour moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça qui est intéressant.
Je te rejoins complètement là-dessus. Je voulais pour finir cet épisode, et puisqu'on est sur le thème de l'argent, je voulais que tu me mentionnes, selon toi, totalement en vrac, quels ont été les éléments qui ont fait que tu es passé de 10K de chiffre d'affaires à 40-50K. Bon, pour les personnes qui sont bloquées à ces 10K, parce qu'une fois qu'on les atteint, on est hyper content et c'est super. Et on fait pas toujours on passe pas toujours, si tu veux, à l'étape suivante. Parfois, on reste bloqué à ce niveau-là. Et donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi ?
Les 10K, du coup, je les ai fait pour la première fois en fin d'année dernière, donc ça faisait un an que j'avais lancé Basic. Déjà, ce palier-là, il était fou parce que avant, je stagnais à 2000, 3000, et le fait d'avoir Assumer que j'avais de l'ambition en fait et que j'avais envie de gagner plus et d'avoir nettoyé aussi des blocages sur l'argent et mes croyances de comment j'allais devenir si j'avais plus d'argent, c'est ce qui m'a permis justement de passer ce palier des 10K. Mais je pense qu'après, on a besoin d'autres choses dans le sens où les 20, 30, 40, 50K, ils se font beaucoup plus facilement que les premiers 10K, je trouve. Parce qu'une fois que voilà, on a atteint nos premiers 10 000 euros, ça veut dire qu'on a quand même fait un super travail de fond derrière. On a mis les bonnes actions en place, on a bien communiqué, on a bien cerné notre client. Mais en fait, au bout d'un moment, ça, une fois que c'est une bonne base, on n'a pas besoin de le retravailler à chaque fois pour multiplier son chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il faut trouver autre chose pour ça. Et en fait, moi, je dirais que le fait de travailler ma vision, de savoir exactement où j'avais envie d'aller. Tu vois, quand j'avais cette entreprise dans la communication, je t'ai dit que je me laissais complètement porter. En fait, j'avais rien décidé. C'était la vie et mes clients qui décidaient pour moi. Et du coup, de moi-même poser un cap et de dire « Ok, ça, c'est un exercice que j'ai fait avec mon mari, parce que du coup, maintenant, c'est mon associé. Hein, donc, bon retournement de situation pour lui qui n'était pas du tout convaincu par l'entrepreneuriat. En fait, on a écrit notre vie idéale. Mais vraiment idéal. Et rien que ça, c'est un exercice super difficile parce qu'il est bourré de croyances et de blocages. Il est plein de « oui, mais enfin ça, c'est pas possible. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ce serait pas possible ?» Donc on a écrit notre vie idéale en allant le plus possible dans le détail de qu'est-ce qu'on avait envie de vivre et qui nous fait complètement rêver où on se dit « ok, si on a cette vie-là, c'est un truc de fou. » Et on a écrit ça et après, on a surtout mis des prix en face de tout ça. On s'est dit, ok, pour avoir cette vie-là, combien ça coûte en fait ? Combien est-ce qu'il faut qu'on ait d'argent chaque mois ? Et on a fait les additions comme ça, et la tête, elle tourne un peu parce que tu te dis, ok, je ne sais pas du tout comment c'est possible. Mais en tout cas, on est arrivé à une somme, et cette somme-là, après, je l'ai mise en grand sur mon vision board dans mon bureau. Et je me suis dit, ok, ça, c'est le cap, en fait, c'est l'objectif. Et quand tu auras cette somme-là, tu auras cette vie-là, mais en attendant, tu es quand même heureuse et épanouie, quoi. Je ne suis pas en train de mettre toute la responsabilité de mon bonheur sur le fait de gagner ou pas cette somme-là. C'est juste... En fait, maintenant, je le vois plus comme un jeu de me dire « Ah tiens, combien est-ce qu'on va faire ce mois-ci » Et comme j'ai enlevé tout le poids que je mettais avant sur l'argent que je fais par mois ou que je ne fais pas, du coup, c'est beaucoup plus léger parce que je sais que même si je fais moins, en fait, ça ne veut rien dire à propos de moi. Ça veut pas dire que je suis plus nulle ou moins bonne qu'une autre, c'est juste une somme qui a changé. Et donc le fait d'avoir défini clairement notre vision, ce qu'on a envie de faire, combien on a envie de gagner, que ce soit plus juste se dire on veut plus. Oui, mais plus quoi ? Ça veut dire quoi ? Donc vraiment quelque chose de très concret. Et puis bien sûr, aller travailler tous nos blocages et toutes nos croyances qui arrivent tout le temps. Et je pense qu'après, c'est un bon équilibre entre le travail de mindset, finalement, donc qui englobe ce que je t'ai dit aussi, la vision, le fait d'aller lever ses blocages, ses croyances, et aussi, évidemment, des stratégies après à mettre en place, puisque on ne peut pas travailler 4 fois plus pour faire 4 fois plus de chiffre d'affaires, parce qu'à un moment donné, on se retrouve coincé. Donc là, il y a plusieurs... porte qui s'ouvre à nous, soit j'augmente mes prix, soit j'augmente mon nombre de clients, soit je change de business model aussi, où je peux faire rentrer plus de personnes en passant moins de temps. Enfin, du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est le plus adapté à chacune, finalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour moi et que je travaille maintenant avec mes clientes, puisque je pense pas qu'il y ait une seule façon de multiplier son chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il n'y a pas qu'une seule façon, puisqu'on a parlé du human design avant en plus, et que les conseils qui s'appliqueront à l'une ne vont pas marcher pour l'autre. Mais j'aime bien en fait l'idée de me diversifier pour multiplier les sources de revenus, ne pas mettre toute la pression sur un seul service, parce que si jamais il ne me rapporte pas, alors tout est fini. Non, là c'est si jamais ça ne me rapporte pas, c'est pas grave, parce que j'ai quand même d'autres choses qui sont là pour me soutenir. Donc petit à petit, c'est comme si je posais des nouvelles briques en fait, tout en créant un écosystème pour que le reste soit cohérent. Mais je pense que cet écosystème-là, il est possible une fois qu'on a défini notre vision et qu'on a un peu ce, ce fil conducteur qu'on a envie de faire passer avec notre entreprise.
Ben, je te rejoins totalement là-dessus parce que c'est vrai que souvent, le premier réflexe qu'on a quand on se dit je veux passer au palier suivant ou au prochain niveau, etc., c'est de penser qu'il faut faire plus et qu'il faut absolument apprendre forcément une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire, alors que la plupart du temps, il suffit juste de revenir à la base, revenir à soi, aux fondations, pour que ça change ensuite le reste, quoi.
Complètement. Bah, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Basic. C'était l'idée de revenir à la base, revenir à soi et de ne pas chercher juste la méthode qui fonctionne chez les autres, mais qu'est-ce qui est aligné avec toi, parce que sinon, ça ne marchera pas, quoi.
On est d'accord. Écoute, Laurie, merci beaucoup pour cet échange très inspirant. Ça fait du bien de discuter avec des gens comme toi, simples, mais tu vois, clairs et posés, qui sont souvent dans l'introspection et la réflexion et la compréhension, etc. C'est très agréable.
Bah écoute, merci beaucoup. Je suis très touchée. Et puis merci encore pour l'invitation. C'était une belle conversation. J'ai beaucoup aimé tes questions. Merci.
Avec grand plaisir. J'espère que cet échange avec Laurie vous aura plu et vous aura inspiré à faire ce que vous avez envie de faire comme vous avez envie de le faire. Si vous avez envie de retrouver Laurie sur Instagram, c'est à @basic avec un Z et un K, .coaching. De toute façon, je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.